Bonjour toutes et tous, bienvenue ici dans la maison du Seigneur. Oh, ce n'est pas la seule maison du Seigneur de par le monde, mais c'en est une. Et moi, je m'y sens bien. J'espère que vous y sentez bien aussi. Bon, l'essentiel, ce n'est pas forcément de se sentir bien, mais c'est d'être bien à l'intérieur. Et je vais commencer par vous remuer un petit peu en vous posant la question suivante. À votre avis, sommes-nous dans les temps de la fin? Je sais qu'Halloween est passé depuis combien de jours? 13 jours. Et mon intention n'est pas de vous faire peur. Mais, enfin, vous allez voir. La prédication sera aujourd'hui moins légère que celle qui est prévue par la liturgie traditionnelle. Si j'avais suivi cette liturgie, nous serions en train de méditer sur le chapitre 25 de l'évangile selon Matthieu, à savoir la parabole des 10 vierges, invitées au mariage de l'époux. Je serais en train de vous expliquer que 5 de ces 10 jeunes filles sont décrites comme sages et prévoyantes, car elles ont fait provision d'huile pour leur lampe, et que les 5 autres sont du genre fofolle et tête en l'air, car elles n'ont fait aucune réserve d'huile. Et comme l'époux se fait attendre, elles finissent par s'endormir, et leurs lampes ne vont pas tarder à manquer de carburant et à s'éteindre. Et quand l'époux arrive enfin, les vierges sages raniment leurs lampes et sont admises à la fête, tandis que les vierges folles, qui elles sont vite parties au magasin acheter de l'huile, eh bien, sont absentes et manquent à l'appel. Et si j'avais gardé ce texte de prédication, je soulignerais que la morale de cette parabole consiste à rester en veille, car nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Mais voilà, le texte qui s'est imposé à moi pour aujourd'hui est celui du chapitre précédent, 24, sur un thème nettement plus désagréable, pour ne pas dire traumatisant, âme sensible, ne pas s'abstenir, parce que c'est vital. Vous avez sans doute remarqué que nous vivons des temps de plus en plus troublés, de plus en plus difficiles et effrayants. Alors, je ne voudrais pas ajouter davantage d'angoisse, mais ce serait quand même vous tromper que de ne parler que de soleil, de mignons petits chatons et d'arc-en-ciel. Alors, loin d'un monde imaginaire ou idéal, c'est de réalité que je souhaite vous entretenir ce matin, de cette réalité dont les journaux télévisés font état, jour après jour, et de ce que cette réalité peut signifier pour nous, maintenant. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Père Céleste, oui, parce que tu es notre Père, et c'est en tant que tes enfants que nous sommes devant toi ce matin. Père Céleste, nous avons grand besoin que tu nous parles. Parce que ta parole est vie, et sans cette parole, pas de vie. Et sans vie, eh bien, c'est triste à mourir. Alors Père, par ton esprit, remplis-nous s'il te plaît. Remplis nos esprits, afin que nous entendions ta parole, afin que nous la comprenions, afin que nous la suivions. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, combien d'entre vous croient que nous vivons peut-être à la fin des temps? Je ne vous demande pas de lever la main parce que vous risqueriez de vous taper la main si vous êtes le seul à lever la main. Mais, dans votre tête, posez-vous la question, à moins que vous la soyez posée déjà depuis longtemps. Vous savez, les chrétiens se la posent depuis des siècles et des siècles, cette question. Chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui va traverser, oula, Jésus revient. Enfin, quand même. Ne trouvez-vous pas que ça y ressemble beaucoup, beaucoup aujourd'hui? Comment pouvons-nous savoir cela? Eh bien, nous pouvons savoir à cause de ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Jésus sort du temple et tandis qu'il s'en va, ses disciples s'approchent de lui pour lui faire remarquer l'inconstruction du temple. Alors Jésus prend la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le déclare, et c'est la vérité. » Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé.
Jésus s'étant assis au mont des Oliviers, ses disciples s'approchent de lui en privé et lui demandent « Dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répond « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en disant, en usant de mon nom, et diront « Je suis le Messie !» et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles de guerre lointaine. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra. Quand je vous disais que le texte du jour était désagréable, pour ne pas dire traumatisant, ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Mon objectif, je répète, n'est pas de vous effrayer pour tenter de vous rapprocher du Seigneur et de vous dire « Allez, maintenant, c'est tout !» Ça n'empêche pas. Mon but, comme celui de l'évangéliste, est de mettre en garde celles et ceux qui se réclament du Christ, afin que tous nous soyons sur nos gardes et que personne ne nous trompe. Avez-vous noté que beaucoup de choses qui ont eu lieu dans un passé assez récent ou qui se passent ces temps-ci correspondent étrangement à ce que Jésus annonce dans ce texte? Plusieurs viendront en mon nom en disant « Je suis le Messie !» et ils tromperont beaucoup de gens. Alors, le premier nom qui me vient en tête, c'est celui du révérend américain Kim Jones. Peut-être que les plus ont eu plus de 20 ans se souviennent de ce nom. Plus de 60, tiens. C'est un messie autoproclamé et célèbre gourou du Temple du Peuple, qui a organisé en 1978, ah oui, ça remonte, hein, le suicide collectif au cyanure de plus de 900 disciples. Peut-être vous rappelez-vous de la secte Moon et de son messie autoproclamé qui a sévi entre les années 1960 et 2000 au moyen de son association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, dont le but était d'amener le royaume des cieux sur terre en mariant les gens à tour de bras. C'était un peu moins dramatique. Plus proche de nous, vous vous souvenez sans doute de l'ordre du Temple solaire, fondé par le messie autoproclamé Luc Jouret, qui en 1994 ordonne plusieurs suicides collectifs en Suisse comme en France. Bon, je terminerai cette liste très, très incomplète par Gilbert Bourdin, un gourou made in France, alors on ne peut pas faire plus français, qui se faisait appeler le messie cosmoplanétaire et qui s'était fait construire à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, un monastère et une statue de 500 tonnes et haute de 33 mètres à sa gloire. Ce n'est là qu'un tout petit aperçu de quelques mystifications de ces 50 dernières années, avec des messies tous fanatiques, parfois loufoques, souvent dangereux et meurtriers, mais spirituellement toujours trompeurs. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Oh, la famine, c'est un problème ancien, vieux comme le monde, aurais-je tendance à dire, présent dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge et dans toutes les époques qui ont suivi. Alors, en regardant un peu la liste des grandes famines qui a eu lieu à travers les siècles, on se rend compte que c'est beaucoup à partir des 17e et 18e siècles qu'elle a explosé, faisant des ravages sur son passage. Alors, quelques petits chiffres. 1,5 million de morts en France lors de la grande famine de 1693. Près de 10 millions de morts en Russie et Union soviétique lors des famines de 1921 et 1933. Des famines organisées, par exemple, par Staline pour rayer l'Ukraine de la carte, avec 10 millions et 10 millions de morts. 3,5 millions de morts lors de la famine de 45 en Indochine française. Et des centaines de morts par jour, tous les jours, dans la tente de l'Afrique, depuis 2011, etc., etc. D'ailleurs, d'après un rapport de l'ONU, paru en juillet, 735 millions de personnes souffrent et souffraient de la faim à travers le monde en 2022, soit 9,2% de la population mondiale. C'est beaucoup. La principale cause de ces famines, les conflits en premier lieu, les guerres et les conflits. Sachant que dans de nombreux pays, la faim est utilisée comme une arme de guerre. C'est pas récent, ça remonte à la nuit des temps. Une autre cause, c'est peut-être un peu plus récent, le changement climatique. Ou encore l'inaccessibilité économique, due par exemple à la flambée des prix, des denrées alimentaires. Vous savez, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, tout a tellement augmenté que les gens les plus pauvres parviennent plus à s'acheter à manger correctement. On estime qu'en 2022, une personne meurt de la faim toutes les 4 secondes dans le monde. Depuis que j'ai commencé à prêcher, il y en a eu pas mal de 4 secondes. Et que dire des tremblements de terre ? Et il y en a tous les jours, y compris sous nos pieds. Plus ou moins fort, plus ou moins faible. Hein. Vous vous souvenez du Teil ? Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude, oh là là, je ne sais plus parler ce matin, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter qui a eu lieu il y a tout juste 3 ans à 100 km d'ici plus au sud. J'étais à la maison, au salon, je m'en souviens très bien d'avoir ressenti un grondement sourd et des vibrations dans le sol, comme quand à Paris on est au-dessus d'une bouche de métro. Ça faisait le même effet, ici à 100 km. Et pour ne citer que quelques-uns des tremblements de terre les plus meurtriers de cette année, on a la Turquie et la Syrie le 6 février, le Maroc le 8 septembre, l'Afghanistan le 11 octobre, et il y a 2 jours, dans le Cotentin aussi, j'ai oublié de le dire, 5 et quelques. La Bible ne le précise pas, mais au chapitre des catastrophes naturelles, on pourrait en rajouter d'autres. On pourrait inclure, tiens, les inondations, les canicules et les incendies, ou encore les tempêtes et les ouragans avec de si jolis noms. Alexis, Daniel, Martin, ou plus récemment, Fernand, Domingos. Mais tout cela, ce n'est pas la fin. Ce n'est peut-être que le début de la fin. Vous entendrez parler de guerre. Et de menaces de guerre, on verra se dresser une nation contre une nation et un royaume contre un royaume. Alors, un petit sondage. Là, vous avez le droit de lever la main. Qui, dans cette salle, n'a pas entendu récemment parler de guerre ou de menaces de guerre ? Donc, je suppose que vous êtes tous au courant. Ça ne va pas si bien que ça. À moins d'être complètement déconnecté de la vraie vie, nul ne peut ignorer dans quel état se trouve le monde actuel. Hier, 11 novembre, la France commémorait l'armistice, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, qui a fait tant de ravages. Je suppose que personne ici n'a vécu les horreurs de cette guerre-là. À vous voir, non. Mais sans doute les plus anciens ont des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, par laquelle les vaincus de la Grande Guerre espéraient prendre leur revanche sur le camp des vainqueurs. Et du partage du monde issu de ces deux conflits mondiaux sont issus la plupart des tensions géopolitiques qui nous secouent encore aujourd'hui. 24 février 2022, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, La Russie envahissait l'Ukraine il y a presque 2 ans, marquant un tournant majeur dans une crise en cours depuis 2014. Avec ce conflit, la guerre est à portée de l'Europe et à quelques 2200 km à vol d'oiseau de chez nous. Le 7 octobre dernier, ça vous dit quelque chose? Le semblant de paix mondiale est à nouveau ébranlé. En effet, une nouvelle guerre est déclenchée au Proche-Orient par une attaque massive d'Israël par le mouvement terroriste du Hamas. En cette seule journée, les terroristes palestiniens massacrent plus de 1000 civils israéliens et prennent plus de 200 otages. Une journée décrite par le président américain Joe Biden comme la plus sanglante de l'histoire d'Israël et la plus meurtrière pour les Juifs depuis la Shoah. Si les conséquences de la guerre russo-ukrainienne pour nos pays sont essentiellement économiques, il en est tout autre de la guerre déclenchée par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Et bien que situé à 3200 km à vol d'oiseau, le conflit va bien au-delà d'affrontements politiques et territoriaux. En tant que chrétiens, nous savons fort bien que le but du diable, comme celui affiché du Hamas d'ailleurs, n'est rien d'autre que la destruction d'Israël et l'extermination du peuple de Dieu. Et par ricochet, ce qui atteint le peuple de Dieu, Israël, finit souvent par atteindre aussi son peuple adoptif, l'Église. Une tragédie qui se répète de siècle en siècle depuis la nuit des temps. En fait, depuis que Satan est l'ennemi juré de l'éternel Dieu Tout-Puissant, il a de ce fait déclaré la guerre au peuple de Dieu, à Israël pour commencer, puis par extension aux chrétiens et à l'Église de Christ. D'où les multiples tentatives de génocide pour les uns et les incessantes persécutions pour les autres. C'est ainsi, par exemple, que depuis 7 octobre, donc à peine 5 semaines, on recensait hier, en France, pas moins de 1247 actes antisémites, pas forcément des crimes ou des massacres, mais des actes criminels antisémites. Selon un rapport de l'ONG Porte Ouverte, publié en début d'année, plus de 360 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2022, soit un chrétien sur 7. Je ne sais pas combien on est là ce matin, mais imaginez que 1 sur 7 est un chrétien persécuté. En 2022, 5621 chrétiens ont été tués, 4542 emprisonnés et 5259 kidnappés en raison de leur foi. Je donne des chiffres parce que c'est du concret. Le nombre de pays persécuteurs de chrétiens a quasiment doublé en 30 ans, passant de 40 pays en 1993, quand l'index a commencé, à 76 pays en 2022. Et si vous regardez, la persécution est forte dans les pays en jaune, très forte dans les pays en orange et extrême dans les pays en rouge. Alors c'est un peu petit, mais en fait c'est pour vous situer à peu près où ça se trouve. Et la France apparemment n'y est pas. Et dans les pays persécuteurs, la persécution s'amplifie davantage d'année en année. Et parmi les pays en tête, on trouve la Corée du Nord. Je ne veux pas vous faire la liste, parce qu'il y en a 76, mais ça commence par la Corée du Nord. Suivi d'une kyrielle de pays d'Afrique, d'Asie, Moyen-Orient, victimes de l'oppression soit communiste, ou soit d'extrémisme religieux essentiellement islamique. N'oublions jamais que le diable est notre ennemi et qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ce, à titre individuel comme à titre collectif. C'est pourquoi il est vital, même vital, donc c'est une question de vie ou de mort, d'être spirituellement lucide et bien éveillé. C'est une question de vie ou de mort pour toi, pour nous, pour le peuple de Dieu. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça rappelle un peu notre verset, là, au-dessus du mur. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. On pourrait ajouter, et tiens bon jusqu'à la fin. Alors, oui ou non, sommes-nous dans la fin des temps? Ah, j'aurais bien envie de répondre oui. Mais un oui qui alors remonterait à la naissance de l'Église. Vous savez, le début de la fin n'aurait-il pas commencé avec la résurrection de Jésus et son ascension? Événements qui sont annonciateurs de l'enlèvement de l'Église et du retour en gloire du Christ. Plutôt que de nous lamenter sur notre sort et celui du monde, plutôt que d'appréhender l'avenir et de gémir sur ce que nous réserve le lendemain, ne devrions-nous pas porter nos regards et notre attente sur la promesse du Seigneur, qui lui nous assure que celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé, et qui rappelle à chaque chrétien sa mission, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier, pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Alors, au lieu de nous demander si c'est la fin, voire même comment et pourquoi on en est arrivé là, ne ferions-nous pas mieux de nous demander dans quel état le Seigneur nous trouvera à son retour? Serons-nous sages et prévoyants, en train de veiller et de ranimer nos lampes? C'est du feu de notre premier amour pour le Seigneur? Ou, au contraire, serons-nous irréfléchis et tête en l'air, endormis ou brassant de l'air pour masquer notre folie? Pas question de vous parler de soleil, de mignons petits chatons et d'arc-en-ciel, car ce serait vous tromper en vous occultant la réalité, celle des temps que nous vivons, mais aussi celle des temps où les plus tard à venir et où grande est la tentation de s'endormir, ne fût-ce qu'un instant. Alors que les événements mondiaux ne cessent de nous alerter sur l'imminence de l'arrivée de l'époux, préparons-nous plus que jamais pour entrer dans le royaume de Dieu. Apprêtons nos lampes et faisons réserve d'huile. Parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. À sa suite, selon ce que chacun d'entre nous a reçu, soyons nous aussi ces lumières dans le monde qui éclairent nos contemporains, en étant les ambassadeurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et n'oublions pas de faire provision d'huile en demandant à l'Esprit Saint de nous remplir de sa présence. Car c'est à cette condition que nous serons prêts le moment venu. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Voilà ce que dit Marc l'évangéliste. Ah bon ? Penseront certains. Comment donc l'Esprit Saint parlerait-il par moi ? Ce à quoi lui répondrait l'apôtre Paul, « Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en toi ?» Finalement, on en revient tout de même à la parabole des dix vierges. Les temps de la fin n'ont jamais été aussi proches et le retour du Seigneur n'a jamais été aussi imminent. Alors, soyons attentifs et vigilant, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure de sa venue. Je ne sais pas si nous sommes en train de vivre la fin des temps, mais ce que je sais, c'est que lorsque l'époux arrivera, le choix de l'endroit où nous passerons les terminer aura déjà été fait. Vous et moi pouvons choisir où nous allons passer l'éternité. Et le choix le plus sûr consiste à choisir aujourd'hui. Par amour pour nous, Dieu nous permet de croire et de l'accepter, mais aussi de ne pas croire et de le rejeter. Quel sera ton choix aujourd'hui? Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Amen.